Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous des Amis d'Orwell. Cette semaine dans Les Amis d'Orwell, nous nous intéressons aux accidents du travail, ou plutôt aux accidents mortels. La situation est plutôt préoccupante, puisque entre 700 et 800 personnes meurent tous les ans sur leur lieu de travail. Bien entendu, cela concerne davantage des ouvriers sur des chantiers que des cadres dans leurs bureaux. Environ 800 par an, cela représente plus de 2 par jour, et plus de 3 même si l'on prend en compte les jours ouvrés. En 2019, rapporté à la population, cela représente 3,5 décès pour 100 000 habitants contre 1,7 en moyenne dans les pays de l'Union européenne. C'est donc effectivement préoccupant. En 2023, pour en finir avec les chiffres, on en est déjà à 49 décès depuis le 1er janvier. En début de semaine, par exemple, le 7 mars, en l'espace de 24 heures, 4 personnes sont mortes sur différents chantiers aux 4 coins de la France, dont le 3e a signalé sur le chantier de la ligne 16 du Grand Paris Express. Samedi dernier, pour alerter sur cette question, un rassemblement était justement organisé devant le ministère du Travail, près des Invalides à Paris. Rassemblement à l'initiative du collectif Stop à la mort au travail, un jeune collectif créé en novembre dernier et qui réunit pour l'instant une vingtaine de familles endeuillées. Ce samedi 4 mars, une délégation justement a été reçue à l'issue du rassemblement par le cabinet du ministre Olivier Dussopt, qui semble-t-il a beaucoup de travail en ce moment. Nous avons donc discuté avec des proches de victimes, des représentants syndicaux, dont quelques représentants de l'inspection du travail, qui sont à la fois chargés de contrôler, quand ils et elles le peuvent bien sûr, les patrons, contrôler les patrons pour leur rappeler leur responsabilité en matière de sécurité, mais ils et elles sont aussi chargés de participer aux enquêtes judiciaires lorsqu'un accident mortel survient sur un chantier. Nous verrons justement que l'hémorragie de personnel dans cette administration est plus que problématique. En France, seulement 1900 agents sont en fonction pour environ 25 millions de salariés. Nous avions d'ailleurs déjà consacré une émission sur le sujet, c'était en 2019, en diffusant un documentaire sur une profession particulièrement touchée, les cordistes, des ouvriers escaladeurs que l'on envoie sur des sites improbables, là où aucune machine ne peut intervenir. Nous les entendrons à la fin de notre reportage. Et comme vous l'entendrez, vous pourrez remarquer d'énormes similitudes entre ces drames et les victimes de violences policières. C'était donc samedi dernier à Paris, devant le ministère du Travail, rue de Grenelle.
À nos morts au travail. Alcodori Adrien, 29 ans.
Mort au travail.
Bardel Hugo, 22 ans.
Mort au travail.
Pento Alexandre, 36 ans.
Mort au travail.
Bérard Flavien, 27 ans.
Mort au travail.
Bianco Jérôme, 33 ans.
Mort au travail.
Rudière Régis, 38 ans.
Mort au travail.
Carton Cédric, 41 ans.
Mort au travail.
Dequin Vincent, 44 ans.
Mort au travail.
Desplébien Xavier, 46 ans.
Mort au travail.
Duchesne Pierrick, 51 ans.
Mort au travail.
Gadreau Benjamin, 23 ans.
Mort au travail.
Garrido Guillaume, 35 ans.
Mort au travail.
Guillaume Damien, 36 ans.
Mort au travail.
Humo Lénaïque, 15 ans.
Mort au travail.
Le duo Tom, 18 ans.
Mort au travail.
Marie Ludovic, 19 ans.
Mort au travail.
Mio Alban, 25 ans.
Mort au travail.
Mutlu Youssel, 36 ans.
Mort au travail.
Torrens Romain, 17 ans.
Mort au travail.
Warner Maxime, 37 ans.
Mort au travail.
Et Steven Jobert, 27 ans.
Mort au travail.
Suite à la mort accidentelle de l'un de nos proches, nous sommes tous confrontés au drame de la mort au travail. Notre collectif famille est un groupe précieux de soutien, d'échange. Nous réfléchissons, nous croisons nos expériences, nos idées. Nous avons à cœur de faire évoluer une situation dramatique dans notre pays aujourd'hui. Le regard que nous apportons est certainement nouveau, mais nous avons le sentiment d'être légitimes dans notre démarche. Qui mieux que nous peut témoigner du choc, de la douleur et des difficultés rencontrées suite à ces drames? Et qui mieux que nous peut proposer des idées concrètes pour enrayer une hécatombe et même un employicide et pour aider au mieux les proches des victimes? Voilà, et donc nous allons nous rendre au ministère et leur déposer toute une liste de doléances.
Ce que nous attendons de cet entretien, qu'une vraie comptabilité des accidents soit faite, en toute transparence, en prenant tous les secteurs d'activité en compte. Combien y a-t-il de morts au travail en réalité dans notre pays? Que soient mises en place en urgence toutes les mesures nécessaires de prévention dans le domaine des accidents de travail, avec une véritable application du plan de prévention des accidents graves et mortels, en redonnant donc des moyens à l'inspection du travail, en recréant des instances récemment disparues, les CHSCT, en créant des campagnes de prévention des accidents au travail à destination du grand public et pas seulement des entreprises et de leurs salariés. Que des mesures d'accompagnement uniformes soient prises afin d'aider et de soutenir les proches des victimes d'accidents du travail, avec la création d'une cellule d'urgence, en fournissant un soutien psychologique immédiat, mais aussi à distance de l'événement traumatique. Une cellule de soutien juridique, avec une aide juridictionnelle de droit pour faciliter les contacts avec les avocats. Une prise en charge également des frais d'obsèques par les entreprises coupables. L'objectif étant aussi de soulager les familles sur le plan financier. Que les procédures judiciaires soient simplifiées et surtout accélérées, et que nous ayons accès aux éléments de nos dossiers. Que les condamnations des entreprises soient exemplaires et immédiates et les incitent réellement à mettre tout en œuvre pour empêcher que de tels drames se produisent à nouveau. Que les entreprises soient condamnées pour homicide volontaire en cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité. Qu'elles cessent de se dissimuler derrière leur personne morale et les délégations de pouvoir. Que d'autres sanctions immédiates soient prononcées en cas de manquement grave, mis sous surveillance avec contrôle judiciaire et ou par l'inspection du travail. Que cette condamnation soit accompagnée de stages obligatoires de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail. Voilà.
On a tout dit. Merci.
Nous partons au ministère.
Et puis on sera disponible un petit moment après.
D'accord, moi je m'appelle Jean-Pierre Dere et donc je suis le papa de Johanna Dere. Aujourd'hui Bento Dere, puisqu'elle a été mariée post-mortem.
D'accord.
Et qui a perdu son conjoint donc, le 3 avril 2020. Alexandre Bento travaillait dans une entreprise de laverie industrielle en Seine-et-Marne, à Brie-Comte-Robert. Et il est parti le matin. Il n'est jamais rentré le soir, bien sûr. Donc voilà. Décédé dans un sèche-linge industriel.
Okay.
Voilà. Donc suite à un bourrage.
Il intervenait pour réparer une machine.
Tout à fait. Pour débourrer la machine, tout simplement. C'est une opération qui arrivait trop fréquemment, peut-être.
Hein, trois fois par semaine.
Voilà. Donc Le 3 avril 2020. Ça va faire 3 ans bientôt. 3 ans et les choses avancent très très lentement malgré tout. Trop lentement, bien sûr, hein. Parce qu'on espère que ça soit 2-3 ans pour avoir des réponses. Et en fait, au bout de 3 ans, on n'a toujours pas aucune réponse, je dirais, qui nous amène à trouver des responsabilités et savoir exactement ce qui s'est passé. Parce qu'on ne sait toujours pas réellement ce qui s'est passé.
Je crois que c'est les hérités qui apportent le plus
bien sûr,
justice avec
les réparations. Oui, bien sûr, tout à fait.
Ce qui s'est passé, c'est primordial.
Comme j'ai déjà expliqué, l'aspect justice, globalement, je ne peux pas dire qu'il n'a pas d'importance, mais c'est pas ce qui prime, en fait. C'est l'entreprise, elle sera pénalisée financièrement ou pas. Mais ça ne représente rien, en fait. Et les peines encourues maximales de 5 ans, on sait bien comment le code pénal fonctionne, elles ne sont jamais appliquées.
Mais en revanche, l'enquête peut apporter des éléments que vous n'avez pas.
Voilà, c'est surtout ça. La première enquête était plutôt dédiée à trouver un homicide.
Ouais.
Bon,
il y
n'y a pas eu d'homicide, selon l'OPJ. Et ça a mis un an quand même pour avoir un procès verbal.
Même pas volontaire l'homicide.
Non, pas. On ne sait pas. On ne sait pas.
On ne sait pas.
Votre cas, est-ce qu'il y a un juge qui a été désigné ou
il n'y a pas de juge. Pour l'instant, il n'y a pas de juge qui a été désigné. Oui, c'est tout à fait.
C'est ça, un petit peu qui est difficile parce que là, vous n'avez pas l'accès aux pièces, c'est ça.
On a accès au dossier de l'inspection de la PJ.
Mais pas
de l'inspection du travail.
D'accord.
Non.
Il a mis deux ans pour sortir, deux ans de travail.
Ils viennent de finir en novembre.
Le rapport.
Oui.
Le rapport du PV, voilà. Un dossier très épais, semble-t-il. Ouais. On ne connaît pas le contenu, mais on sait qu'il y a des choses qui sont importantes. Donc, ça a été remis au procureur donc, fin octobre, début novembre. Et mi-novembre, il a relancé l'enquête. Donc une enquête, on ne sait pas qui est chargé.
On pense
que c'est le commissariat de Moissy-Cramayel, mais on n'est pas sûr. Et le nom qu'on avait n'est pas le bon. C'est de l'incertitude encore. C'est un jeu de piste. Hein. C'est un jeu de piste. Mais c'est malicieux comme jeu de piste.
Les pions, quoi.
Voilà. Bah, oui. Puis surtout une petite fille qui avait 4 mois à l'époque du décès de son papa. D'accord. Et un fils de 4 ans. Alors, il demande des réponses. Hein. On aimerait bien en avoir. Parce qu'il pose beaucoup de questions, son fils. Maintenant, il a 7 ans et il voudrait savoir ce qui est arrivé à son papa.
Il a 7 ans, d'accord.
Ouais, maintenant, il a 7 ans, ça fait 3 ans. Il avait 4 ans. Hein.
Parmi les différents points qui ont été évoqués, là, qui sont abordés au ministère du Travail,
oui.
Est-ce qu'il y en a quelques-uns que vous trouvez fondamentaux pour qu'il y ait des choses qui avancent?
Alors,
je pense que tous, hein, évidemment.
Oui, on va dire tous, parce que trop de décès ouais. Au travail, déjà. Bon, après, on va parler dans un cas général, non pas son cas particulier, parce que c'est ouais. toujours le plus important, malgré tout, mais dans le cas général, il y a trop de décès. On n'est pas sûr que... On arrive à 1200 décès, en tenant compte des décès routiers. C'est énorme, il y en a peut-être 1500, peut-être encore beaucoup plus, quoi. Parce que... Donc ça, c'est... On ne peut pas mourir au travail. C'est pas possible. La prévention, c'est une logique de tout. Mais il faut que chacune entreprise joue le jeu de la prévention. On sait que ça a un coût. Et donc, si on peut limiter les coûts, surtout aujourd'hui, on va peut-être s'en passer. Ouais. En espérant qu'on croise les doigts et qu'il ne se passe
c'est
rien.
La chose qu'on
bien passe. Sûr. Ouais. Voilà. Si c'est un petit bobo, allez, uh-huh. c'est pas gênant. Hein. Tu restes chez toi, tu reviendras demain. Si c'est un décès, c'est tout autre. Voilà. Donc, il faut prendre des mesures importantes par rapport aux entreprises qui ne respectent pas. Et donc, il faut des moyens. Les inspecteurs du travail, au niveau des directs régionales, n'ont pas suffisamment de moyens pour contrôler les entreprises. On a moins de 10% des entreprises qui sont contrôlées. Et encore, comme je dis, pas sur tous les sujets. C'est-à-dire l'entreprise est toujours prévenue un peu à l'avance, en disant, voilà, on va traiter l'électricité, par exemple. Ils vont passer une demi-journée, ils vont regarder un petit peu partout, ou l'amiante, ou les choses comme ça, et après ils s'en vont. Et ils sortent un procès-verbal, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et ça part comme ça. Et c'est parti. Voilà. Il y a, je ne sais pas quelle famille a eu le problème, donc depuis 2019, ils attendent un résultat de l'inspection du travail. L'inspectrice leur a dit, vous ne m'appelez pas régulièrement, je ne peux pas sortir, je ne peux rien faire, j'ai trop de travail, je ne peux rien faire. Voilà. Donc, on sent qu'il y a un manque de moyens. Il faut des moyens humains, ça c'est important. Et moi je dis aussi, ce que je reproche un petit peu au ministère de l'Intérieur, c'est qu'on remet au procureur des documents qui vont aller directement sur un OPJ ou sur un juge d'instruction. Il faut absolument que ces gens-là ne soient pas noyés sous l'ensemble. Il faut des gens spécialisés qui servent de référents pour le domaine du travail. Quand on passe son examen d'entrée pour entrer dans la police nationale, on fait du droit. Là, c'est plus du droit, c'est la législation du travail qui semble plus importante. Est-ce qu'ils ont cette connaissance? Je ne suis pas sûr. Voilà. C'est aussi ça. Donc il faut des référents qui puissent agir et traiter l'ensemble des dossiers qui sont des décès mortels chaque année en France. Voilà. Ça, c'est que des moyens. Après, on peut dire que ce sont les moyens qui vont coûter un peu d'argent, mais qui vont coûter une goutte d'eau par rapport à ce que coûtent les accidents du travail aujourd'hui, qui sont payés par les entreprises. Mais quand on sait que les entreprises sont surchargées de charges, elles-mêmes, peut-être qu'elles aimeraient bien que descendre un petit peu tout ça. Il n'y a pas que ça. En termes d'économie, on s'aperçoit quand même que ce sont des... On a à peu près 100 millions d'heures perdues avec les accidents du travail. Chaque jour, 2500 accidents du travail recensés. Combien sont pas recensés ? Voilà,
c'est ça aussi. Je crois que c'est 1/2. Ouais.
Donc il y a beaucoup de choses encore à faire, et bien sûr, et la transparence. On a évoqué en ce qui nous concerne pour le collectif et pour tous les autres qui ne font peut-être pas partie encore du collectif, c'est qu'il faut des moyens de communication efficaces avec des processus. Un processus simple qui puisse nous dire, voilà, attendez, vous allez pris en contact, vous êtes pris en charge par une personne qui va charger de votre dossier. Tout comme le fait la sécurité sociale, en fait. Pour définir que c'est réellement un accident du travail, dès lors où la déclaration est faite, il y a donc une personne qui, plusieurs qui sont nommés pour prendre en charge le dossier. Et définir à travers une petite enquête, dans les 3 mois ou dans les 6 mois, si réellement c'est un accident du travail. La personne, elle nous a contactés. A contacté la fille, on a pu échanger, etc. Et ça s'est fait d'une manière totalement logique. Mais c'est important d'avoir ce contact privilégié, systématique, par rapport à une personne. Si on ne l'a pas et si on doit chercher les noms, c'est extrêmement compliqué. Donc c'est peut-être une découverte pour le ministère du Travail, mais ça me désole un petit peu quand même. Les accidents du travail existent depuis très longtemps. Quoi. Donc, moi, j'étais chargé de prévention dans un autre ministère, donc je sais aussi ce qu'il en est. Quoi. Donc, il y a des choses à faire, bien sûr, nécessairement.
Et parmi les demandes qui ont été citées, là, qui vont être formulées devant le ministère, c'est si l'accompagnement, une fois que l'événement s'est passé, ça aussi, c'est pas important.
Oui, voilà, c'est ça.
Les familles sont un peu oubliées, sont un peu mis de côté, qu'il n'y a pas d'accompagnement juridique, psychologique, et ça aussi.
Alors, moi, j'ai émis plusieurs idées, je ne sais pas ce qui va être discuté, mais il faut qu'il y ait un suivi, c'est impératif. Donc il faut déjà définir une autre date, peut-être de réunion ici ou en visio, pourquoi pas, hein. c'est la mode, hein. Mais ça marche bien la visioconférence aussi, hein. Et ça coûte moins cher, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui sont des différentes régions et provinces de France, hein. Donc remonter à Paris systématiquement, c'est pas bien non plus. Il faut qu'il y ait des deadlines. Il faut définir des butées sur lesquelles on va apporter des réponses. Si Olivier Dussopt n'est pas capable, pour différentes raisons, d'apporter des réponses, il doit le dire. Il faut qu'il exprime en disant, voilà, moi je rencontre des difficultés pour... À ce moment-là, on pourra aller plus haut. C'est nécessaire, bien sûr. Hein. Après, c'est... moi, il y a mes petits-enfants, hein, qui posent des questions. Ma petite-fille n'en pose pas parce qu'elle avait 4 mois, mais mon petit-fils pose énormément de questions. Il faut aussi lui apporter des réponses quand il aura 15 ou 20 ans.
Il faudra avoir accès à tout ça. Quoi. On va pouvoir au moins savoir que c'est possible qu'il puisse accéder à
cette vérité. Ça me semble normal, bien sûr. Il y a des dossiers qui sont... C'est volumineux quand même. Hein. L'inspecteur, l'OPJ, c'est 10 cm. Hein. C'est énorme. Je pense que l'inspection du travail, c'est au moins la moitié. C'est des pages et des pages. Donc, à un moment donné, il doit ressortir quelque chose de ces pages. Ça n'a pas été écrit pour rien, quoi. C'est un peu dans cet esprit, quoi.
Vous attendez de quoi, finalement, cette réunion qui est un suivi, c'est ça ?
Alors, vous avez un rôle à jouer.
Oui, bien sûr.
Bien sûr. Ça, c'est médiatiser ce type d'informations. C'est pas du banal quand même. Hein. On parle de gens humains qui ont perdu la vie. Quoi. Donc c'est important. Donc est-ce que votre rôle va se limiter à quelques jours ou à quelques mois ou quelques années? C'est ça aussi. Mais il est évident que vous allez partir sur d'autres sujets. C'est normal, c'est votre job. Le rôle du collectif, c'est de revenir aussi à la charge, non seulement au ministère, mais aussi avec vous. Pour dire, voilà, est-ce que vous nous accompagnez pour dire, effectivement, vous savez, on s'est rencontrés le 4 mars 2023 et on est en 2025, et regardez, il ne s'est rien passé.
Je sais que c'est difficile de rappeler à chaque fois ce qui s'est passé, mais aussi ne pas raconter ce qui s'est passé. Et raconter pourquoi vous êtes là et ce que vous espérez de cette journée.
Du coup, moi, c'est mon frère qui a eu un accident de travail. Du coup, il y a eu
18 tonnes de gravats qui sont tombés dessus. Et c'est pas normal d'aller au travail pour mourir. Et surtout pour avoir un peu de reconnaissance que s'il y a un accident, on en parle. Si c'est un accident de voiture, des choses comme ça, on en parle. Et ceux qui vont au travail dans le bâtiment, des choses comme ça qui sont dures, eux, on n'en parle pas assez. Et c'est vraiment pour les faire reconnaître et qu'on comprenne que c'est pas juste un accident parce que c'était un coup de malchance, c'est parce qu'il y a des fautes graves qui sont faites. Et c'est pas normal que... Tout ça, puis se rendre compte qu'en fait, s'ils sont pas là, par exemple, les bâtiments, tout ça, ça n'existerait pas. Exactement. Et ils ont pas assez de reconnaissance, parce que c'est dur. Là, par exemple, nous, on a froid, mais eux, c'est tout l'hiver qu'ils ont froid. Et l'été, c'est tout l'été qu'ils ont chaud. Et c'est un peu leur reconnaissance. Ouais, c'est... Comme une fois, on avait dit, quand il y a une ouverture de route, toutes les choses comme ça, là, il y a le maire, tout ça, c'est bien, mais c'est pas lui qui a eu froid, qui avait travaillé. C'est vrai, ces hommes-là, on les oublie trop et il faut pas. Nous, c'était en 2018, l'accident. Et là, il n'y a toujours rien qui est fait. Et en fait, on a l'impression qu'on a oublié que depuis 2018, il y en a eu d'autres. Et malheureusement, il y a eu d'autres hommes qui sont morts aussi, et des femmes.
Dans votre cas, au niveau de l'enquête, ça en est où? Vous êtes encore en attente?
Alors nous, c'est un gros groupe. C'est un groupe national. Donc on n'a pas trop d'informations. On n'a pas trop d'informations. Nous, on a porté, du coup, plainte contre homicide involontaire. Mais bon, quand on envoie ces hommes sur le chantier, qu'on sait que le chantier n'est pas aux normes, c'est pas involontaire. Enfin...
Dans votre cas, c'était un sous-traitant qui a employé votre frère ou...
Alors mon frère était en intérim, il y avait plusieurs entreprises, et du coup il était en intérim sur le chantier, c'était les vacances, et ils ont demandé de le garder un peu plus longtemps, parce qu'il manquait des hommes. Et on nous a dit pourquoi en fait il n'est pas parti en vacances. Parce qu'on nous a dit quand on a essayé de parler à des chefs, il n'avait qu'à partir en vacances, mais oui, mais l'argent, enfin, quand on propose de gagner un peu plus, on se dit oui, on en a tous besoin.
Ouais, l'intérim c'est aussi un problème, hein, parce que sinon c'est pas la boîte d'intérim qui va t'informer sur les conditions de sécurité avant de commencer un boulot. S'il y a des insuffisances sur le chantier, c'est trop tard.
Mais l'intérim ne le sait pas. Et par contre, c'est eux après qui sont chargés d'appeler les familles. Donc c'est compliqué aussi.
Et qu'est-ce que vous a apporté le collectif qui s'est créé récemment là?
Déjà, de voir qu'on n'est pas tout seul, qu'il y ait vraiment un groupe. Et surtout, ça a soutenu maman. Parce que c'est vrai qu'au bout de presque 5 ans, elle perdait un peu, elle n'arrivait plus à tout mener. Et de voir qu'à plusieurs, ils arrivent à faire des choses et qu'elle, ça permet de la soutenir, ça, c'était important.
Vous êtes toujours dans Les Amis d'Orwell sur Radio Libertaire. Nous étions donc samedi dernier, le 4 mars, devant le ministère du Travail, où une délégation d'une quinzaine de personnes était reçue par le cabinet d'Olivier Dussopt. Les personnes reçues sont membres d'un collectif de familles, le collectif Stop à la mort au travail, des familles qui ont donc perdu un proche lors d'un accident mortel survenu généralement sur un chantier. C'est un sujet majeur en France, donc il y a environ 800 décès par an. Et dehors, nous avons rencontré Ladji Silla, c'est son frère qui était mortellement atteint lors d'un chantier dans les sous-sols de l'Assemblée nationale à Paris. C'était en juillet 2022.
Moi, je me présente d'abord, je m'appelle Silla Ladji, le frère à Moussa Silla, qui est décédé en juillet 2022 à l'Assemblée nationale.
Dans l'Assemblée?
Dans l'Assemblée. Dans le cinquième sous-sol. Voilà, depuis le décès jusqu'à aujourd'hui, nous patientons. On a eu des rencontres avec la société hors fenêtre et les quelques députés de l'Assemblée nationale, voilà. Pour connaître au moins quand même, pour qu'une enquête approfondie soit au moins menée, pour qu'on puisse savoir de quoi il est mort et voilà. Jusqu'à présent, on n'a pas pu obtenir des résultats aussi satisfaisants.
Donc il y a une enquête judiciaire, c'est ça, qui est en cours évidemment ?
Oui, il y a une enquête judiciaire qui est en cours. Bon, la famille a porté plainte, voilà, on a un avocat qui s'occupe de ça. Et tout ça grâce aussi à l'aide de la CGT qui est là, Madame Danielle voilà, Cheton, qui nous a vraiment beaucoup aidé. Depuis l'événement jusqu'à aujourd'hui, vraiment, ils nous soutiennent. Voilà.
Et qui était l'employeur en plus, mon frère ?
C'est une société qui s'appelle Orfnet.
Ok.
Voilà.
Donc, qui travaillait pour l'Assemblée nationale ?
Oui, oui. Qui travaillait pour l'Assemblée nationale.
Voilà. Et cette société, dans les rapports qu'elle a eus avec vous, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait ?
La société n'a pas fait grand-chose. Bon, voilà. Parce que déjà, mon frère est plongé dans le coma. L'accident a eu lieu, c'était le 9 juillet. Et le 12, il est décédé. C'est après le décès qu'on a commencé à avoir la société, les représentants de la société, en fait. Voilà. Depuis, on les a rencontrés dans leurs locaux. Et on a échangé plusieurs fois. Voilà. Qui seront là pour la famille, voilà. Pas grand-chose, quoi, en fait.
Est-ce qu'ils ont essayé à expliquer que ton frère n'avait pas respecté telle consigne
Non, parce que là, on n'a pas pu obtenir grand-chose avec eux, parce qu'on a même posé des questions. Est-ce qu'il a suivi une fois la formation, parce qu'il est tombé dans une machine on ne sait pas, est-ce que la machine dont il est tombé, est-ce qu'il a fait la formation de la machine, est-ce qu'il la connaissait ou pas. Là, on n'a pas pu obtenir vraiment de réponse qui peut coller, quoi, en fait. Ils disent oui, mais avec tout ça, il faut que ça soit en écrit. Voilà, nous, il y a tous ces papiers qui sont avec moi. Moi, j'ai tout fouetté, mais j'ai rien vu. Je n'ai pas vu là où il a fait une formation ou autre chose. Bon, je ne sais pas, une formation, je ne sais pas comment ça s'est fait. Je ne sais pas. Voilà. C'est quand même. Il y a quelque chose qui est flou dedans, qu'on n'arrive pas à comprendre jusqu'à présent. Voilà, la famille, c'est la question qui se pose au niveau de la famille. Voilà, comment l'accident s'est produit. On n'a pas eu jusqu'à présent des explications mais c'est convaincantes, voilà, qui pour rassurer la famille. Voilà, c'est tout.
Et est-ce que la société a été. Vous a proposé de vous aider, même financièrement?
Oui, la société nous a aidé d'abord avec les frais d'obsèques. Voilà, et c'est tout. Ils ont vraiment quand même aidé avec les frais d'obsèques, ça, il faut le reconnaître. Ils nous ont aidé avec les frais d'obsèques, voilà, en dehors de ça, il n'y a rien d'autre.
Et parmi les revendications qui ont été tout à l'heure citées, qui sont discutées au ministère, est-ce qu'il y en a quelques-unes que tu considères comme prioritaires par rapport à ce qui t'est arrivé ?
J'ai appris à conduire là-dessus, moi.
Oui.
Moi, je pensais à l'accompagnement psychologique, l'accompagnement juridique après coup, tu vois.
Ouais.
Parce que la prévention, de toute façon, c'est un truc, c'est des promesses, les préventions.
Non, ouais, exactement.
Concrètement, qu'est-ce que vous prévoyez de mettre en place pour que les familles qui se retrouvent dans cette situation soient allégées, soient accompagnées?
Ouais, mais c'est ce qu'on attend de l'État, en fait. C'est ce qu'on a. Et surtout, moi, mon frère, il est quand même mort dans la grande famille, parce que c'est à l'Assemblée nationale.
Ouais.
Voilà, mais quand même, on devait au moins quand même avoir quelque chose, quand même qui peut au moins quand même un peu soulager la famille et tout ça. Et surtout, mon frère qui est décédé, il a laissé une famille. Il a sa femme, il a ses enfants, il a ses deux sœurs et d'autres demi-sœurs et plein de monde qui le soutenait. C'est lui qui avait le charge totale de la famille. Depuis sa disparition jusqu'à aujourd'hui, vraiment, la famille, ses enfants, sa femme, ils ont vraiment du mal à se relever.
Justement, voilà. Qu'est-ce que l'Assemblée nationale, en tant qu'institution, a fait pour...
L'Assemblée nationale n'a rien fait, en fait. Moi-même, personnellement, j'ai rencontré la présidente de l'Assemblée nationale avec d'autres élus, voilà, bon, depuis le jour du décès ou quelques jours après le décès. Voilà, ils ont promis que voilà, ils seront là tous pour nous, ils feront tout pour mettre la lumière sur le fameux accident. Bon, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, nous, on n'a aucune nouvelle venant de la part de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on ne s'attendait pas quand même dans une grande institution comme l'Assemblée nationale. Une mort comme ça qui arrive comme ça et qui reste comme ça silencieux, les choses bougent très lentement, on ne sait pas où est-ce qu'on est, et on n'a pas de contact. Franchement, c'est un peu douloureux.
Combien de temps maintenant?
Oui, c'était en juillet 2022. Voilà. Quelques 7
millions.
Voilà, il n'y a pas de réponse.
Des petites attentions. Ouais.
C'est dur.
Il y avait des députés avec vous
Oui, il y avait des députés, il y avait Courbiac, il y avait Rachel Tété, il y avait Mariam Sissé, il y avait des élus du 19e, il y en avait plein, des élus qui étaient là pour nous soutenir, ils ont rendu un grand hommage, voilà.
Donc c'est aussi à eux de faire le boulot, tu vois, parce qu'ils sont députés, quoi. L'institution, c'est l'Assemblée, même s'ils sont députés d'une circonscription.
Exactement.
C'est à eux de faire le relais. C'est à eux de relancer aussi.
Bien sûr, c'est à eux de relancer. Ben, voilà, mais bon, voilà. Quoi. Comme on le dit, les choses, même s'ils bougent, ils bougent vraiment lentement.
L'Assemblée, c'est une entreprise, hein, ouais. C'est elle qui a commandité les travaux pour mener à la mort de ton frère.
Bien sûr. C'est elle qui a commandité le travail, et voilà. Et ce qui a suivi la mort de mon frère. Et voilà, c'est vraiment une perte pour la famille. Et c'est très douloureux parce qu'on a perdu un élément très, très, très important de la famille.
Quel âge il avait?
Il avait 52 ans. Depuis son arrivée en France, c'est lui qui faisait tout pour la famille. Vraiment, c'est une perte. C'est vraiment une perte et c'est très douloureux.
Écoute, merci de m'avoir parlé.
Alors moi, je suis membre du collectif CGT parisien du nettoyage. Et dans le cadre des activités du collectif, on a été amené à aider les familles de deux salariés du nettoyage qui sont morts suite à un accident du travail. Moussa Gassama, mort au printemps 2022 dans des services de la ville de Paris. Il était en train de nettoyer les vitres et il est tombé. Et ensuite, il y a eu le décès de Moussa Silla à l'Assemblée nationale le 7 juillet 2022. Et dans ces deux cas-là, on a essayé d'abord de faire connaître ces décès. Et dans les deux cas, il y a eu des rassemblements d'hommages et de dénonciations aussi des conditions de travail qui amènent à ça. Voilà, c'est un problème qui malheureusement nous est familier. Donc c'était un peu naturel qu'on vienne ici. Parce qu'on pense que c'est une bonne initiative, que les familles s'organisent également. Voilà, même si au niveau syndical, nous aussi, on peut accompagner les familles, mais c'est encore mieux s'il y a un soutien plus large. Voilà.
Dans les revendications qui sont discutées en ce moment au ministère, là, j'ai compris qu'il y avait à la fois le côté prévention, améliorer la prévention, l'information des salariés, responsabiliser encore plus les entreprises, mais aussi, une fois que l'événement s'est produit, qu'il y ait un accompagnement réel au niveau juridique, psychologique, des soutiens même administratifs. Qu'est-ce qui vous paraît le plus important?
Le plus important, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accident mortel du travail, pas d'accident du travail du tout. Au niveau politique, on a fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on a supprimé les CHSCT dont le rôle principal et exclusif était la santé et la sécurité au travail. Et maintenant, c'est des commissions au sein du CSE dans le privé ou au sein du CSA dans le public. Donc, des commissions avec moins de moyens, moins que l'ancien CHSCT. Et donc, il y a moins de moyens pour la prévention et il faudrait remettre en place les CHSCT. Et puis, augmenter le nombre d'inspecteurs du travail aussi. Voilà. Qui est davantage de formation pour justement d'éducation, de sensibilisation à la sécurité au travail. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de boulot à faire, beaucoup. Et alors ensuite, sur l'après, l'accompagnement, etc., effectivement, les démarches qui doivent être faites suite à un accident du travail mortel, c'est énorme. Enfin, moi, j'ai découvert hein, l'occasion de ces décès. Il y a des démarches auprès de la sécurité sociale parce qu'il y a un capital décès qui doit être versé à la famille. Alors en plus, quand la famille elle est au pays et elle n'est pas en France, c'est encore plus compliqué. Il y a des démarches à faire auprès des organismes de prévoyance. Il y a aussi des démarches à faire pour trouver un avocat, de préférence un avocat qui soit spécialisé sur ces questions-là. Un salarié qui n'est pas aidé, il peut pas trouver un salarié ou une famille qui découvre ces problèmes-là. C'est indispensable qu'elle soit accompagnée, soit par des familles, soit par les syndicats. Le mieux, c'est par les deux, mais parce que c'est un vrai labyrinthe administratif et c'est très très long pour obtenir les capitaux et pour arriver à avoir des informations permettant d'agir en justice. Mais il y a aussi l'aspect, quels sont les droits que la famille, elle a, et à qui elle doit s'adresser. C'est des choses très bêtes. Mais par exemple, dans le nettoyage, la plupart des salariés en Île-de-France sont originaires de pays hors Union européenne. Donc, ils ne sont pas du tout familiarisés avec les démarches administratives, etc. Donc, il faudrait qu'il y ait une sorte de guide. Voilà, un guide, un guichet. Quels sont vos droits? Comment vous y prendre? Voilà les formulaires. Voilà, on peut vous accompagner, etc. Voilà. Donc, aujourd'hui, ça, c'est fait par les syndicats ou par... Peut-être par des associations dans certains cas, je ne sais pas. Mais en tout cas, les familles sont souvent très démunies. Très démunies. Voilà.
Ok, merci madame.
De rien.
Travailler peut tuer 2 morts par jour. Voilà ce qui est écrit sur une grande banderole qui est restée plantée durant cet après-midi glacial à 2 pas du ministère, près des Invalides, à Paris. Le 4 mars, donc, une délégation de familles touchées par ces drames a été reçue au ministère pendant 2 heures. Et parmi ces délégations, il y avait la mère d'Alban, Véronique. Alban avait 25 ans. Il a fait une chute mortelle il y a 2 ans sur un chantier d'installation de panneaux solaires dans l'Ille-et-Vilaine. Nous avons donc pu parler à sa mère avant qu'elle ne rencontre le cabinet du ministre. La famille d'Alban vient juste d'apprendre d'ailleurs qu'il y aura dans quelques mois un procès visant les anciens patrons de son fils. 2 ans
oui,
après les faits.
Du deuil, mais voilà, nous, on a attendu 2 ans. Bah, nous, ça fera 2 ans, le disque, notre fils est décédé, le procès a lieu le 6 juin.
2 ans.
Okay. Et, voilà. Et 2 ans de silence, où vous n'avez aucune information, parce que comme c'est judiciaire, là, c'est sous sein. Hein, donc. Là, on s'est porté partie civile. On a déposé plainte le jour de l'accident, et puis là, depuis qu'on a la date du procès, du coup, on s'est porté partie civile. On a rendez-vous avec notre avocate mardi. Voilà. Donc on va voir à quoi on a accès, mais on sait déjà plein de choses parce que les gens parlent. Hein. Alban, il avait des collègues qui sont venus nous parler, Même Alban nous avait déjà dit que c'était dangereux. Et puis ben voilà, ce qu'on découvre, c'est que il y a eu des raisons pour que l'accident se produise.
Ça va tomber sur quelqu'un d'autre, hein, ses collègues.
Aussi,
le lendemain ou la veille.
Bien sûr, bien sûr. Et puis on voit aussi que l'inspection du travail manque cruellement de moyens pour faire son travail. C'est-à-dire que les contrôles ne sont pas faits. Il y a des employés qui signalent des dangers, ben, ça ne réagit pas assez rapidement. Tout ça, on va demander au ministère du Travail que ça change. On va demander à ce qu'ils remettent des moyens dans l'inspection du travail. Vous avez en France, vous avez 1 inspecteur pour 1000 entreprises. Plus les chantiers déplacés sur son secteur. Donc 1000 entreprises, comment voulez-vous contrôler efficacement tout le monde? Déjà, c'est pas possible. Et plus les chantiers qui sont déplacés, et plus l'administratif. Donc on voit bien que cet outil, il n'est pas efficace. Quoi. Il n'est pas efficace. Et en plus, bon, voilà, ils se contentent de faire des contrôles sur le travail illégal, c'est très bien. Mais c'est pas ça qui va empêcher des morts. La chute de hauteur, c'est la deuxième cause de mortalité en France. Alors tout est fait pour la prévention, ça on est bien d'accord. Il y a plein d'outils pour la prévention, pour la sécurité et tout ça. Sauf qu'on ne contrôle pas derrière. Et il y a des. C'est vrai, il faut le dire, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, il y a des entreprises, des patrons qui ne respectent pas les règles. C'est ceux-là qu'il faut contrôler, c'est ceux-là qu'il faut punir. C'est pas les grands groupes qui ont tous les moyens de mettre les échafaudages, de mettre tout ce qu'il faut. C'est les petits qui n'ont pas les moyens, qui tirent sur les coups.
Sous-traitants, des fois.
Les sous-traitants.
Sous-traitants.
Voilà, c'est ça. Et ceux-là, bah, ils passent entre les mailles du filet. Et ça fait des morts, ça fait des morts. Moi, je suis convaincue, puis là, tous on l'est, que l'accident que nos défunts ont vécu, aurait pu être évité. Et se dire ça, c'est terrible. C'est terrible. C'est pas.
C'est un constat qui est partagé, vous dites.
Vous pouvez demander à plein d'autres parents, ils vont vous le dire. L'accident de mon fils aurait pu être évité. Donc se dire ça quand on a perdu quelqu'un, c'est dur, quoi. C'est. On essaye de pas être en colère parce que ça. Bon, ça rajoute de la souffrance à la souffrance, mais quand même, quelque part, elle est un peu là, la colère.
Hein. La colère, c'est aussi la souffrance, donc il faut l'exprimer aussi.
Mais voilà.
Chacun a son niveau de...
C'est ça.
Son curseur différent. Quoi.
Voilà.
C'est dans quel secteur que ça s'est passé?
Alors, il est décédé en Ille-et-Vilaine, mais il était en déplacement. Voilà. Dans le secteur professionnel,
ouais.
Et il a installé des panneaux solaires. Sur les toits. La chute de hauteur, dans le groupe, il y en a beaucoup.
Hein. Ah, c'est cette histoire aussi, parce que l'entreprise ne fournissait pas le matériel.
C'est ça.
Quand tu apprends ça, tu...
Tu fais des bons.
Il y en a qui...
C'est ça, quand je dis il y a des patrons voyous, alors bon là, il ne faut pas le répéter, parce que le procès n'a pas encore eu lieu, mais quand il y a des patrons voyous, il y a des patrons voyous. Des patrons qui vont sans cesse... liquider leur entreprise pour en recréer d'autres, comme ça ils passent au travers des contrôles, des patrons qui ne veulent pas payer les équipements, ou alors qui vont payer. Alban, il avait un baudrier, un harnais de nacelle, alors qu'il ne travaillait pas en nacelle. Donc un harnais de nacelle, il a une longe d'un mètre. Quand vous montez sur un toit, où vous l'accrochez, le harnais, voilà. Et ces gens-là, il faut qu'ils soient. Et contrôlé et puni, et pas puni de juste une amende avec sursis. C'est juste pas entendable, quoi. Ils sont dangereux. Alors bien sûr, c'est pas la majorité, on est bien d'accord.
Hein. Non, mais c'est aussi c'est toute la chaîne aussi des entreprises qui finalement se mettent en faillite pour échapper machin.
C'est ça.
Et
c'est
puis
ça.
Recréer une boîte plus loin et échappent aussi aux interdictions de gestion parfois qui leur sont infligées parce qu'il y a des prête-noms, des frères, des cousins qui...
Nous, c'est ce qu'on vit, il a plus le droit de gérer. Mmh. Et donc, il a tout mis au nom d'autres personnes. C'est un roman. Après le procès, on en parlera plus clairement, mais on n'attend pas, de toute façon, ça ne nous ramènera pas notre fils. Hein,
A lieu à Rennes, c'est ça?
Oui. On espère quand même que le procureur va quand même ouvrir les yeux et se dire non, ce mec-là, faut que je l'empêche de nuire, quoi. Au moins lui interdire de créer dans une entreprise ou de travailler dans ce domaine, ou je sais pas, mais faire en sorte qu'il ne puisse pas recommencer. Parce qu'il peut, demain, il peut de nouveau embaucher des gens dans les mêmes conditions et les mettre dans les mêmes dangers.
Vous savez aussi que c'est un problème de structure, d'environnement juridique.
Tout à fait.
Et qu'effectivement, il faut aussi taper sur la structure qui permet tout ça.
Mais bien sûr. Non, bien sûr. Nous on a quand même, sur le fond, il y a toute la gestion derrière des moyens qu'on met... protéger les Français, quoi. Les moyens qu'on met dans l'inspection du travail,
c'est...
Voilà, j'ai dans mes relations une inspectrice du travail qui me dit au téléphone, moi je rêve d'avoir un carnet à souche. Pour pouvoir...
allonger, quoi.
Bah oui. À un moment donné, c'est comme ça qu'on empêche aussi. C'est pas... Ce que je déplore, moi, par exemple, c'est ça, c'est il faut qu'il y ait l'accident mortel pour qu'on déclenche une enquête. Non, c'est le principe de précaution, c'est avant, c'est pas après. Il n'y a pas de principe de précaution. Alors il faut protéger les emplois aussi. Il y a des gens qui disent il faut fermer l'entreprise tant qu'elle ne s'est pas mise aux normes. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait des employés? On les met au chômage technique, il y a ça aussi. On cherche à préserver l'emploi, mais du coup, en essayant de préserver l'emploi à tout prix, le prix, c'est parfois la vie d'un homme ou d'une femme. Voilà. Après, nous, c'est pas politique. Notre débat, il n'est pas politique, il est sociétal. C'est pas, on va pas dire c'est la faute à un tel ou un tel. C'est une gestion qui est là depuis des années quand même. Faire des plans de prévention sur la sécurité, sur papier glacé, oui, d'accord. Mais si on ne contrôle pas ceux qui ne les appliquent pas, ça ne marche pas. Voilà, tout simplement. Il y a tellement à dire, c'est pareil, j'en perds mes mots.
Vous avez une idée du nombre de personnes qui sont représentées aujourd'hui, qui sont dans le même
cabinet? Il y a 18 familles.
18
ouais, okay. 18 familles, et chaque famille a apporté encore des gens avec elle. Donc je ne sais pas exactement combien on est.
Évidemment, du tout coin de la France, quoi.
On vient de partout. Et puis on a l'intention d'accueillir encore des familles dans ce collectif pour se soutenir, parce qu'on s'est tous fait le même constat. Quand ça vous arrive, déjà c'est dur, mais en plus vous n'êtes pas épaulés, vous n'êtes pas épaulés par personne. Nous, on s'épaule les uns les autres, du coup. On se raconte nos histoires, nos ressentis, ne serait-ce par exemple les obsèques. Selon les familles, il y a des familles, c'est l'entreprise qui a payé les obsèques. Nous, c'est nous. Il y a une disparité territoriale qui est terrible. Donc, je ne sais pas, il y a quand même écrit égalité sur le fronton des mairies. Hein, donc, rien que ça, déjà. Puis, en fonction du tribunal dans lequel vous tombez, si vous êtes dans un tribunal où il y a énormément d'affaires, vous savez que ça va prendre un temps fou. Ça, c'est comme aux urgences à l'hôpital, quoi. Hein, le procureur, il va prendre les affaires les plus urgentes. Et l'accident du travail, c'est pas une urgence. Donc, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Ça, c'est... En fait, vous êtes à la fois physiquement dépossédé de votre enfant, puisqu'il est décédé, et dépossédé de son dossier. Parce que nous, pendant 2 ans, ça a été silence radio. Silence radio, pas d'infos. À chaque fois qu'on appelait, on nous dit oui, l'enquête est en cours. Oui, bon, ça fait quand même 6 mois, ça fait un an.
Ça fait combien de temps que vous êtes partie civile?
Ça fait pas longtemps, là, c'est un mois. À peine un mois.
Je pense que c'est ça qu'il fallait faire peut-être plus tôt.
On ne peut pas se porter partie civile tant que le procureur n'a pas donné de suite. Et le procureur, il donne des suites quand il a les enquêtes.
Ouais. Tant qu'il y a un juge, il n'est pas désigné.
Il y a 3% des affaires où un juge est désigné. Sinon, nous, il n'y a pas de juge.
C'est préliminaire, et donc c'est de l'attente, et c'est le procureur qui décide de
donner
accès aux pièces ou pas.
Avec l'espoir que ce soit pris en compte, parce que parfois, c'est classé sans suite. Donc voilà.
Quand on vous dit si le procureur donne des suites à l'affaire, quand on vous avait dans la tête, vous dire il va peut-être classer sans suite, mais c'est on vous tue votre enfant une deuxième fois, quoi. On va reprocher à notre fils certaines choses, on le sait. Après, moi, ce que je dis, on a vécu le pire. Hein. Vous savez, on est fort là. Hein. Ouais. On peut pas nous faire plus mal que ce qu'on vient de vivre. Donc.
Dos au mur,
on est prêt, il n'y a pas de souci.
On ne peut plus avancer dos au mur.
Le mal, il est fait. Donc, on le gère comme on peut, jour le jour, et puis voilà quoi.
Il se passe un peu.
Voilà, plus rien ne fait peur. S'il n'y a pas. Alban avait une sœur et un frère, forcément on a beaucoup. On se fait beaucoup de soucis pour eux, mais plus rien ne me fait peur quoi. Ce choc-là, on se rend pas compte. On y pense quand on est parents, hein, on a tous peur de ça, hein, mais quand ça vous arrive.
Oui, c'est sûr qu'on peut pas.
Ah oui, puis c'est tellement révoltant.
Ce collectif, il nous aide vraiment, c'est incroyable. La parole se libère parce qu'on a. On a un groupe WhatsApp, hein, on échange, on est en contact, je dirais pas 24 heures sur 24, mais tous. Quoi. Et La parole se libère, les mamans, surtout les mamans, hein, parlent de leurs sentiments, de ce qu'elles ont ressenti, de ce qu'elles ont vécu. Enfin, c'est incroyable, puis de se rendre compte. Puis forcément, on a vécu la même chose, donc on sait ce que l'autre ressent quand on parle. Quoi. C'est... Voilà, moi, quand je racontais l'histoire d'Alban, j'ai dit qu'il faut aller aux pompes funèbres, choisir un cimetière, un cercueil pour son enfant. Enfin, c'est pas envisageable. C'est... Non. Après une urne, après... Enfin, et tous, on a vécu ça, tous. Et puis, ça aussi, c'est pareil, quoi, quand on en arrive à la facture, enfin...
Ah ben écoute, je sais pas.
Vous n'avez rien demandé, vous n'avez rien demandé, quoi.
La marraine de Ludo.
Voilà. C'est... Voilà, moi, je ne souhaite pas mon pire ennemi, j'ai pas de pire ennemi, mais... je souhaite à personne de vivre ça, vraiment pas. Vraiment pas.
Ça fait combien de temps que le collectif
il se met en place ? Pas, il y a qui
alors c'est Fabienne Bérard qui l'a constitué en novembre.
Mais le ministre...
Fabienne, c'est une dame qui a une énergie incroyable, qui a perdu son fils aussi. Et c'est grâce à elle, si on est tous là aujourd'hui, grâce à sa ténacité, elle a remué ciel et terre, elle a écrit à Brigitte Macron, elle a écrit partout, Fabienne.
Tu feras partie de la délégation ou pas ?
Ah oui.
Vous en ferez partie, vous, la délégation ?
Oui. Tous ceux qui...
La liste a été faite, tous les membres du collectif peuvent entrer.
Leur fils, c'est Flavien, qui a été percuté par une caisse métallique. Qui est tombée de je sais pas combien de mètres de haut. Ben là, c'est pareil. Dans leur cas, par exemple, la machine, elle est sous-scellée parce qu'il faudrait faire une expertise. Et c'est des outils tellement compliqués, ben, personne ne peut faire l'expertise pour l'instant. Voilà. Donc, ils attendent. Ils attendent l'expertise de la machine.
Enfin, on essaye. Le collectif va permettre aussi à certaines familles d'accompagner
c'est
d'autres familles
hein. Franchement, ça, c'est
dans
très
les procès.
Important.
Alors après, on ne sait pas quelle portée ça aura, mais. Au moins, il y aura un soutien. Quoi.
C'est vrai que le procès pénal, vous ne pouvez pas attaquer l'État au pénal. Pas possible.
Non.
En revanche,
non.
Le procès administratif est peut-être intéressant.
Oui, on y réfléchit. Voilà. On y réfléchit. Parce que
là, c'est les structures que vous attaquez. Quoi. Et c'est pas des employés, c'est pas des hommes. Non, c'est comment la structure est faite pour que finalement ça se passe.
Nous, dans notre cas, on a les employés, les collègues d'Alban qui nous disent qu'il y en a un qui a écrit à l'inspection du travail plusieurs fois pour dire qu'ils étaient en danger. Et malheureusement, la personne qui était destinataire des mails était en congé, pas remplacée, a pris connaissance des mails à son retour de congé après le décès d'Alban.
Sidérant.
Voilà, ça, pour nous, moi, ça me donne envie, oui, effectivement, d'aller au tribunal administratif. Parce que c'est quand même, ça pointe du doigt le fait que bah, s'il y avait eu un inspecteur en fonction à ce moment-là, il serait peut-être allé voir, il aurait peut-être dit bah non, vous ne travaillerez pas que ça, puis Alban serait encore en vie.
Mais des fois, il suffit effectivement qu'une personne se déplace extérieure pour faire prendre conscience au responsable qu'il y a un truc qui déconne.
On a le cas d'un monsieur là, qui fait partie du collectif qui a vu dans son village un chantier sur un toit, des gens pas en sécurité. Il a appelé l'inspection du travail qui a dit on ne peut pas venir. Il a appelé les flics qui ont dit bon, ça ne nous concerne pas. Donc il a appelé le maire qui a appelé les flics qui ont dit bah bon, ok, on y va. C'est quand même dingue. Parce que forcément, comme on est tous marqués par ce genre d'accident, nous, quand on voit un échafaudage, on regarde, quoi. On dit, ah, regarde, celui-là, t'as vu, il n'est pas attaché. Ça, nous, on est marqués par ça, hein, fatalement. Hein.
Merci à Véronique et Laurent, les parents d'Alban. Le procès aura donc lieu en juin. Ce sera à Rennes. En fin d'émission, nous parlerons avec Greg du collectif Les Cordistes en Colère, une profession très touchée, hein, comme je le disais, quelques jours après ce rassemblement, le 7 mars, en début de semaine, un jeune cordiste, justement, a fait une chute mortelle dans une raffinerie de Tartas dans les Landes. Samedi dernier, j'ai pu m'entretenir avec une petite délégation d'inspecteurs et d'inspectrices du travail, syndiqués Sud et CGT, une profession très impliquée sur cette question, souvent prise entre deux feux.
Bon, on participe donc à ce rassemblement là sur les accidentés et les morts au travail. On représente les organisations syndicales, donc on a la CGT, on a Sud pour le ministère du Travail. Nous, en fait, dans le cadre de notre métier, tous les jours, on a affaire à des enquêtes sur des accidents du travail. On constate qu'il y a une grosse impunité sur les patrons et les employeurs qui sont responsables donc de la survenance d'accidents du travail. Et on n'accepte pas la... en fait on n'accepte simplement pas qu'on puisse arriver au travail et ne pas repartir en vie. Et donc ça rythme à la fois notre engagement syndical mais à la fois l'engagement dans notre métier. Voilà.
Face aux familles qui sont dans cette détresse immédiate et où il y a des réponses immédiates qui doivent être fournies. Vous êtes parfois vous-même entre deux feux, non ?
On peut être entre deux feux dans le sens où il y a un secret de l'instruction en réalité. Donc on est sur des infractions pénales et il y a plein d'éléments qu'on ne peut pas donner dans l'immédiat. Le problème en tant que tel, c'est donc quand on parle d'impunité, c'est l'impunité face donc au préjudice qui est causé à la société et au fait qu'on a des délinquants qui ne sont pas punis en réalité. Et donc oui, nous on fait des procédures, on fait des enquêtes, on relève des infractions suite à des accidents qui soient mortels ou graves. Et derrière ça, les poursuites pénales ne sont pas à la hauteur ou ne sont juste pas présentes pour le coup.
Et sur la question des victimes, en fait, nous quand on fait des procédures et qu'on reçoit les rares fois où elles sont audiencées et qu'elles passent au tribunal, en fait c'est nous qui informons les victimes. Hein, parce que c'est nous qui les informons du fait qu'elles peuvent se porter partie civile sur nos procédures. Et c'est absolument pas la justice elle-même qui le fait. Et ça c'est un vrai, vrai problème parce que on a des collègues qui ne pensent pas à le faire, etc. Et c'est vraiment l'angle mort en fait. La victime n'est pas considérée dans ce cadre, dans le cadre de ses affaires. Et moi, ce que je considère aujourd'hui, enfin, il est, enfin, au-delà du symbole de la douleur des familles, etc., et de la reconnaissance légitime qu'elles veulent, et de sortir justement des faits divers dans lesquels on les place. Hein, ce qui est hyper important, c'est aujourd'hui ce mouvement qui consiste à sortir de l'invisibilité de la mort au travail et des accidents graves. Dénoncer l'impunité du patronat, l'indigence de la justice et l'incurie du gouvernement qui n'a qu'un plan de com et qui ne fait absolument rien sur ces sujets qui créent plusieurs centaines de morts par an. Pardon. Et voilà, en fait, aujourd'hui... La politique, malgré tout, conduit à créer l'impunité patronale autour de ces sujets et ne résout rien. Aujourd'hui, la France est un des détient le triste record des accidents et des morts au travail en Europe. Et c'est pas une fatalité. Alors. Les chiffres, en fait, les chiffres officiels tournent autour de 800 morts par an. Mais il y a énormément de morts au travail qui ne sont pas comptabilisées, notamment parce qu'il y a des maladies professionnelles qui ne sont pas reconnues. Parce que on prenait l'exemple tout à l'heure, mais un cadre qui bosse 60 heures par semaine et qui un jour fait une crise cardiaque un week-end, il ne sera pas comptabilisé comme un accident du travail. Or, des exemples comme ça, on peut les multiplier. Et en fait, il y a toute une guerre des chiffres, évidemment. Qui consiste pour le gouvernement à les minimiser. Mais nous, on sait que malgré tout, aujourd'hui, ce chiffre de 800, j'espère me tromper, mais c'est probablement l'arbre qui cache la forêt. Donc voilà, il y a des enjeux. Donc ce rassemblement, il est hyper important à cet égard. On commence à parler de ces sujets-là. Ça sort de la page faits divers des journaux. Il y a une autre initiative le 28 avril, donc à la... Donc c'est sur la journée internationale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, où c'est pareil, il y a un collectif avec des organisations et des syndicats qui vont mener des actions à Paris, mais aussi ailleurs sur le territoire. Donc l'année dernière, il y avait déjà eu, et c'est pas mal, quoi. Enfin, on commence à en parler, et c'est hyper important.
Comment dire, la fonction même qu'a le métier d'inspecteur du travail, c'est qu'au final, nous, on agit aussi sur la prévention et sur ce que doit mettre en œuvre l'employeur. Et on voit que, en fait, plus on est, moins on est nombreux, moins on arrive à être présent dans les entreprises, et moins on arrive à justement venir désamorcer par le côté coercitif qu'on peut avoir dans notre métier, à dire il faut respecter vos obligations en la matière et arriver à du coup désamorcer la survenance d'accidents du travail. Et pour nous, c'est pas du tout satisfaisant que d'être autant pris dans des enquêtes accidents du travail, parce que c'est aussi pour notre profession aussi un échec quoi, en
fait. Vous êtes dans l'avant et l'après, c'est ça, ouais. Des deux côtés.
Oui.
Donc là,
comme on n'est pas assez, comme on est surchargé, on peut être que dans l'après. Et on n'est pas là pour compter les morts. Normalement, on est là pour les éviter. Et c'est bien ça l'enjeu, d'être assez nombreux pour être présents sur tous les chantiers, d'aller régulièrement dans chaque entreprise, de lutter contre tous les risques que rencontrent les salariés et d'éviter que les accidents arrivent. Et là, on en est loin. Ça fait des années que la lutte contre les accidents du travail, c'est une priorité du ministère du Travail, et rien ne change. Donc ça peut être encore la priorité l'année prochaine. Si concrètement, il n'y a pas plus d'agents de contrôle pour faire le boulot, eh ben, ça restera comme ça indéfiniment. Il y a une inégalité flagrante, parce que d'un côté, on a des salariés qui risquent leur vie, et de l'autre côté, on a des employeurs qui finalement ne risquent pas grand-chose.
Qui optimisent les coûts.
Bah oui,
c'est ça.
Vous pouvez justement rappeler ici l'hémorragie des effectifs dans votre métier ?
Alors, actuellement, il reste 1700-1800 agents de contrôle de l'inspection du travail pour 5 millions de salariés. 25 millions de salariés, pardon. Oui. Il y a 30% des postes d'agents de contrôle qui sont vacants, qui ne sont pas pourvus.
Du travail, voilà, en fait.
C'est énorme, ça.
Et en fait, ça vient même impacter même la qualité des enquêtes qu'on peut faire, puisque dans tous les cas, le service public, on doit le rendre sur les accidents du travail. On doit y aller, on y va sur les sections qui sont vacantes aussi. Mais tout ça vient s'ajouter à déjà tout ce qu'on a, nous, à gérer sur une section. Et ce qui fait qu'on a des procédures qui tardent, qu'on a du mal à rendre, en fait, à clôturer, parce qu'on est surchargé et ça ne fait pas un travail de qualité pour le coup. On va vraiment aller tirer les responsabilités de chacun.
Vous connaissez sans doute mieux que les familles endeuillées la capacité des ministères de dire, ne pas faire, de promettre. De quoi vous avez peur par rapport aux revendications qui ont été menées ? Les points qui seront vraiment qui peuvent être abordés et les autres qui seront coincés, qui seront vraiment des points bloquants, quoi.
La sous-traitance, par exemple, ce sera pas abordé au niveau du ministère parce que ils ne veulent pas toucher à la réglementation actuelle, parce que c'est aussi il y a des gros enjeux financiers là-dessus, derrière tout ça, et concrètement, il n'y a rien qui est fait pour un petit peu obliger chaque donneur d'ordre à s'occuper, être responsable pour l'ensemble des travailleurs qui travaillent sur un chantier, par exemple. Actuellement, il y a une dilution des responsabilités, tout ça, et au final, que ce soit l'inspection du travail ou que ce soit les victimes, elles n'ont personne vers qui à qui imputer la faute personne à traduire en justice, quoi.
On a des branches, en fait, à l'heure actuelle, on a des branches d'employeurs qui sont en fait des branches complètement délinquantes au final, et qui subsistent de la sous-traitance, qui subsistent de qui vivent autour de la clandestinité et du recours aux travailleurs sans papier, à l'exploitation. Et en fait, c'est dans ces secteurs-là, c'est dans ces branches-là que nous, on constate le plus d'accidentés et là où on a le plus de mal à intervenir au final. Parce que c'est des invisibles et parce que c'est compliqué qu'ils arrivent aussi jusqu'à nous. Voilà.
On était intéressé aux cordistes il y a quelques années, là.
Ils sont là. Il y a des cordistes en colère ici.
Je suis avec Grégory Molina, je suis cordiste intérimaire. Moi, je fais partie d'une association qui s'appelle Cordistes en colère, Cordistes solidaires. En fait, c'est une association qui rassemble à la fois des ouvriers et des familles d'ouvriers cordistes qui sont morts au travail. Et donc là, ce collectif, on a été contacté notamment par Fabienne Bérard et d'autres personnes de ce collectif au mois de novembre, là, quand elles ont commencé à réfléchir à monter ce collectif. Et pour nous, on voyait ça comme quelque chose de très positif, hein, parce que ça élargit à tout le monde du travail, parce que nous, on s'est organisé, on s'est organisé parce que ça nous touchait, nous, dans notre métier, c'est mort au travail. Mais ce qu'on subit en tant que cordiste, cette violence du travail, bah, elle est pareille pour tout le monde, hein, dans tous les corps du métier. Et on voit aujourd'hui, là, il y a des gens de tout métier qui se retrouvent, des stagiaires qui meurent au travail, jusqu'à des gens qui arrivent en fin de carrière et qui laissent leur vie après une dure vie de labeur. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce que ça nous apporte? Bah, c'est de se renforcer. Et on le voit, un simple symptôme de ça, enfin de cette force qui émerge, c'est la présence de 15 000 journalistes aujourd'hui. Enfin, je fais 10-15 000, c'est une image, mais c'est très médiatisé aujourd'hui, ce petit rassemblement, et ce qui est positif. Mais pourquoi? Ben, c'est parce que qu'il y a encore plus de personnes qui sont mobilisées, quoi.
Puis il y a des choses quand même qui sont un peu prédites, qui sont améliorées, les conditions de travail, peut-être l'aspect réglementaire, est-ce que ça a évolué, ça a bougé un peu?
Bah, nous, ça fait 4 ans qu'on existe, donc c'est non. De toute façon, les évolutions réglementaires, ça met des années et des années et des années. Nous, en tout cas, au niveau de notre métier à nous, on a tout juste eu un rendez-vous avec le ministère du Travail, enfin la DGT, des services du ministère du Travail, en fin décembre l'année dernière. Au bout de 4 ans de sollicitation, de courrier, sans arrêt, on les harcèle on leur envoie systématiquement nos communications quand on a des collègues qui laissent leur vie. Et là, on a juste eu un premier rendez-vous où ils ont ouvert la possibilité à une évolution réglementaire. Mais on en est loin. Hein. Et maintenant, ça va ferrailler avec le patronat, parce que le patronat en face, eux, ils veulent rien. Enfin, ils vont défendre leurs intérêts qui sont forcément pas les mêmes que les nôtres. Quoi.
Au niveau des structures d'entreprise, là aussi, il n'y a pas eu d'évolution sur un truc un peu simple, sur les sous-traitances, tout ça.
Des petits chauffeurs. Au niveau des entreprises, c'est, enfin, excuse-moi le langage, mais c'est du foutage de gueule. Ils ont fait ce qu'ils ont fait avec l'OPPBTP, qui est l'organisme de prévention dans le bâtiment. Ils ont fait une plateforme des bonnes pratiques, donc en ligne, où en fait tu vas écrire, c'est au cordiste, d'aller écrire comment des bonnes situations, des bonnes manières de travailler. Et c'est uniquement ça qu'ils publient. Nous, à ce moment-là, quand ils ont mis en ligne ce truc-là, on leur a dit, nous, ce qu'on a besoin, c'est pas avant de faire une plateforme de vos bonnes pratiques, c'est de connaître quels sont les accidents, connaître les causes des accidents du travail, et pour, à partir de là, essayer de trouver des bonnes manières d'empêcher ces accidents du travail. Eh bien non, globalement, ils nous ont répondu non, parce qu'on ne veut pas parler de choses négatives, nous, on veut rester dans le positif, on veut être dans le constructif, donc on parle uniquement des choses positives. Enfin, bref, ils veulent pas parler des accidents du travail. On l'a compris de plein de manières différentes, ils nous ont fait comprendre qu'ils voulaient pas entendre parler, parce que pourquoi? Parce que ça donne une mauvaise image de la profession, de parler des morts au travail, des accidents du travail. Et donc, ils n'en parlent pas, quoi. Et donc, à ce niveau-là, oui, donc ils font des choses. Mais ils font des choses qui leur permettent de cocher la case. On a fait un travail de prévention, mais c'est qu'ils pissent dans un violon, quoi. Enfin, ils font rien.
Ouais. À l'époque... Dans le documentaire, là, il était clairement établi qu'il y avait des conditions de travail qui menaient à ce que les cordistes eux-mêmes apportent leur matériel et soient eux-mêmes, en fait, gestionnaires de leur sécurité et de tout ce qui devrait être fait par l'entreprise. Ça a évolué, ça?
Ça a un peu évolué, ouais. Ça, c'était vraiment un truc qui existe depuis la création, enfin, depuis le début de notre métier, qui est assez récent. C'est un métier qui existe depuis les années 90, en gros, mais qui s'est vraiment développé dans les années 2000. Et donc, qui était issu du fait que les premiers cordistes, en fait, c'était beaucoup d'indépendants qui étaient des guides de haute montagne ou des accompagnateurs spéléo, et qui avaient des statuts d'indépendants, en fait, et du coup, qui géraient leur matos. Et sauf qu'aujourd'hui, en fait, il y a très peu d'indépendants, on est tous salariés, à 70% des intérimaires. Et cette pratique de prendre en charge son matériel, d'acheter son propre matériel et de le gérer soi-même, elle s'est perdurée jusqu'à encore il y a peu. Et ça, c'est quelque chose, c'est une des batailles qu'on a réussi à mener avec l'association. Et qui on a. Bon, il y a eu un gros virage, c'est pas encore complètement gagné. Mais en gros, voilà, on a mené plein de actions pour remettre la pression, pour leur dire que c'était plus possible. Et ça a abouti sur une. On a amené. La plupart des agences d'intérim de notre métier a signé une convention dans laquelle s'engager à ne plus nous envoyer dans des entreprises qui fournissent pas le matos. Quoi. Donc c'est pas réglé à 100%, mais y a eu un gros virage, en tout cas au niveau de ces pratiques-là. Qui était avant, c'était vraiment la règle, et aujourd'hui, elles sont devenues marginales. Quoi.
je me rends compte, je sais pas si c'est une réflexion qui te parle, mais enfin, j'en parle un petit peu parce que je connais assez bien les questions de violence policière et je me rends compte que les victimes de violence policière, ils sont un peu dans la même situation que les victimes de violence au travail. En fait, c'est que t'es démuni, en face t'as une institution qui a une impunité un peu totale. Quand c'est un flic qui abat ton frère, quoi. Et même l'accompagnement, tu vois, après coup, en fait, il n'y a rien qui est prévu.
Bah oui, bah y a beaucoup de similitudes. Enfin, en tout cas, dans les moyens, dans la structure générale, y a les similitudes sont là. Après, il y a des petites subtilités. Je sais que moi, quand on a commencé à suivre des procès d'accidents du travail, j'ai eu un peu, parce que un peu comme toi, moi j'étais plus habitué, quand j'allais dans les procès, j'étais plus à aller soutenir les prévenus, en gros. Et là, pour la première fois, en fait, tu te retrouves avec des procureurs qui vont défendre en fait les choses pour lesquelles tu viens, enfin qui vont soutenir les gens pour que toi aussi tu viens soutenir. Mais en fait tu te rends compte que c'est beaucoup de la façade. Enfin, c'est du coup, tu as la justice qui va publiquement apporter des mots de solidarité, de soutien aux proches des ouvriers qui sont morts. Mais après derrière, là on l'a vu encore récemment, un procès à Caen qui a été, où même la justice a accepté que le procès soit filmé. Le procès a été filmé, ouais. Il y a eu toute une mise en scène de compassion envers la famille des victimes, envers Djema qui est ici qui est présente ici, là, qui fait partie du collectif. Et le délibéré, mais ça a été une relaxe totale en fait. Alors que en fait rien ne laissait penser, en fait, tout dans le procès, tout le monde pensait qu'il allait y avoir vraiment une reconnaissance des responsabilités des employeurs, mais non, relaxe total. C'est là où tu vois que c'est de la façade, mais là où pour des violences policières, il s'embarrasse même pas de ça, au contraire, ça va être vraiment de charger, d'inverser systématiquement les rôles, de dire que c'est ceux qui se sont fait massacrer la gueule par les flics, c'est eux qui ont attaqué en premier. Ça, ils se le permettent pas dans le cadre des accidents du travail. Les seuls qui se le permettent, c'est les avocats des patrons, qui vont systématiquement dire que c'est les salariés, les ouvriers qui ont fait des conneries, qui ont causé eux-mêmes leur propre mort, quoi.
Ou alors, tout à l'heure, je discutais avec les inspecteurs du travail, et effectivement, il y a pas mal. On me dit que dès qu'il y a mort sur site, les prises de sang.
Ouais.
Qui amènent parfois à ce que, effectivement, tu découvres que quelqu'un a fumé un bédo 3 semaines avant.
Systématiquement.
Et ou bu une petite bière avant, et voilà, bam, quoi. Et là, l'affaire, elle peut être pliée très vite, quoi.
Systématiquement, oui, on connaît plein de situations, nous, au niveau des cordistes, plein d'affaires qui ont été vraiment très compliquées par rapport à ça. Une entreprise, en tout cas, là, un des premiers accidents qu'on recense, une des entreprises qui a été complètement relaxée, qui a gagné en cassation par rapport à ça.
Ok, merci.
Voilà, c'était donc ce qu'il s'est passé samedi dernier. Pour plus d'infos, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook du collectif Famille Stop à la mort au travail. Autre ressource importante, le blog du journaliste Mathieu Lépine, que l'on retrouve facilement sur la plateforme WordPress, mathieulépine.wordpress.com. Et enfin, le site du collectif Cordistes en colère, Cordistes solidaires. Et d'ailleurs, justement, vous pourrez y écouter sur le site le documentaire de Franck Després, Profession cordiste, que nous avions diffusé dans Les Amis d'Orwell en février 2019. C'est terminé pour cette fois. On se retrouve dans 15 jours dans Les Amis d'Orwell, l'émission historique de Souriez, vous êtes filmé. Toutes nos archives sont toujours sur notre site souriez.info, Souriez EZ. Bonne fin de soirée à l'écoute de Radio Libertaire.